Victor Toutougoro était vendredi l'invité du magazine Transparence. Avec l'accord de Bougival, il n'y a plus de clivage pour ou contre l'indépendance, affirme le président de l'UPM, extrait dans le journal. Le salon Saveurs et Traditions à la Maison des Artisans, le public savoure littéralement ce rendez-vous gastronomique qui se poursuit jusqu'à 14h30. Trois morts lors d'un rallye automobile dans le Puy-de-Dôme. D'après les premiers éléments de l'enquête, les spectateurs percutés par une voiture de course se trouvaient dans une zone interdite au public. Donald Trump inflexible dans les négociations sur les droits de douane entre l'Europe et les États-Unis. La Commission européenne s'apprêterait à accepter 15% de surtaxe douanière. Le sport, le cyclisme et l'Australien Kenneth Groves qui remporte l'avant-dernière étape du Tour de France en Pontarlier. À la veille de l'arrivée aux Champs-Élysées, le Slovène Tadej Pogacar conserve son maillot jaune de leader. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Avec l'accord de Bougival, il n'y a plus de clivage pour ou contre l'indépendance, affirme Victor Toutougoro. Et les gens vont pouvoir se parler sereinement et développer l'économie. Le président de l'UPM était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, Michael Juneski.
Victor Toutougoro a négocié et signé l'accord de Bougival au sein de la délégation unie. Il est aussi, par ailleurs, signataire de l'accord de Nouméa. Et face à la cacophonie du camp indépendantiste, il lui a été demandé quelle est la nature du document qui a été signé. Pour lui, il s'agit d'un compromis politique.
Moi, j'utilise le terme de compromis politique parce que c'est le résultat in fine au bout de plusieurs jours de discussion, plusieurs heures de tractation qui ont abouti à ce compromis politique. Comme tout compromis, on n'est jamais donc satisfait à 100% puisque les uns et les autres ont fait des concessions. Et donc, à un moment donné, on pense que les concessions faites de part et d'autre aboutissent à un résultat équilibré. Et donc, c'est ce fait qu'on a signé, en fin de compte, cet accord, ce compromis politique.
La délégation unie défend le projet d'accord, mais l'UC et le BP du FLNKS critiquent vivement le texte. Et Victor Toutougoro regrette cette attitude.
Ça reste dans la logique du 13 mai. La logique qui les avait amenés à quitter la table de négociation de Darmanin à l'époque. On est toujours dans cette logique. Et donc, moi, je déplore l'attitude des copains du lycée, du FLNKS, parce que ce n'est pas bon pour le pays que l'ensemble des signataires, que l'ensemble des personnalités qui ont négocié ne puissent pas aller jusqu'au bout de leur signature. Au mois de février, lorsqu'on va ratifier cet accord, la population calédienne, si d'aventure cet accord n'était pas avalisé, qu'est-ce qui arriverait? C'est un peu le néant. Aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Non. Qui sommes les gestionnaires des collectivités et des provinces, par exemple, on n'a pas de visibilité au-delà de 2025.
Ça nous fait de la peine, dit-il, que l'UC ne supporte pas l'accord, mais il pense que certains responsables de l'Union calédonienne, comme son président, Emmanuel Tchibaou, vont continuer à porter l'accord de Bougival. Et il se dit convaincu que, désormais, les différents signataires doivent défendre ensemble le texte qu'ils ont signé.
Aujourd'hui, l'accord lui-même n'entretient plus ce clivage, hein, puisque les choses sont dorénavant ouvertes. Et donc, il faut que les uns et les autres en soient en capacité d'aller au-devant des populations pour expliquer ensemble pourquoi on a signé cet accord et quelles sont les orientations que tout le monde leur donne. Pas chacun, le camp indépendantiste, le camp non-indépendantiste, non. Les principaux responsables, comment on entend construire le pays et comment on entend le développer, lui donner toute son autonomie dans les années à venir.
Concernant le fond de l'accord, le président de l'UPM se félicite de la création d'un État de la Nouvelle-Calédonie. Mais pour lui, c'est l'expression sui generis qui est importante parce que cela prouve que la Nouvelle-Calédonie est particulière et qu'elle évoluera selon ce que les Calédoniens auront défini.
Le résultat des référendums ont indiqué que la majorité de la population était contre l'accès à la pleine souveraineté. Mais une grosse minorité, presque équivalente, 47%, veulent y accéder. Et donc, il fallait essayer de trouver ce qu'on a appelé à un moment l'inconciliable. La solution a été de dire, on va dans la Constitution française, pour la première fois, dans l'histoire de la décolonisation, instituer un État. Un État qui, pour le moment, reste au sein de la République. C'est parce que c'est un État avec une population, avec un territoire, avec des compétences propres. Je rappelle que s'il y a 4 compétences régaliennes, aujourd'hui, n'ont toujours pas été rétrocédées à la Nouvelle-Calédonie, mais l'immense majorité des autres compétences ont été rétrocédées déjà à la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, ce ne sont pas des régaliennes, mais c'est ceux qui font vivre les Calédoniens au jour le jour. Et donc, avec ça, avec une nationalité propre, une reconnaissance à l'international, ça, ce sont les caractéristiques d'un État qui sont dans la Constitution française.
Et dans ce contexte, Victor Toutougoro affirme que la pleine souveraineté est possible au bout du chemin.
On va naviguer avec ça, avec un État, dans la Constitution française, à l'intérieur de la France, pour respecter les référendums. Mais petit à petit, les Calédoniens, suivant l'évolution de leur mentalité, suivant la confiance qui se sera manifestée les uns aux autres, parce qu'il faudra rapidement apaiser les choses, il faut apaiser pour qu'on puisse se reconstruire derrière. Petit à petit, les Calédoniens pourront demander à ce que soient attribuées les dernières compétences régaliennes. Et petit à petit, donc, on va emmagasiner les choses comme ça. Et au bout, là-bas, ça prendra le temps que ça prendra 10 ans, ça prendra 15 ans, ça prendra 20 ans, mais là-bas, c'est la sortie, c'est l'accession à la pleine souveraineté. Mais on aura décidé ensemble.
Les mécanismes de transfert des compétences régaliennes ont été imaginés pour que les Calédoniens fassent les choses ensemble, affirme le président de l'UPM, parce que pour lui, l'essentiel dans cet accord, c'est qu'il n'y a plus de clivage.
N'ayant plus ce clivage pour ou contre l'indépendance, pour ou contre l'accession à la pleine souveraineté, le temps sera celui de la construction du pays. Chose qu'on n'a jamais pu faire jusque-là. Et enfin, on va pouvoir mettre tous les sujets de société sur la table et essayer de trouver solution. Chose qu'on n'a jamais fait jusque-là. C'est le cas de l'énergie, c'est le cas du nickel aujourd'hui, c'est le cas de la souveraineté ou de l'autonomie alimentaire, etc., etc. C'est tous les sujets de société qu'on va pouvoir parler de l'économie du pays. Et donc, le développement économique de notre pays. Et je pense que la Nouvelle-Calédonie, les Calédoniens, une fois se mobilisés sur ces sujets de société, petit à petit, ça va redonner de la confiance.
Et pour Victor Tutugoro, c'est dans le même état d'esprit qu'il a été décidé d'ouvrir le corps électoral. Il explique par ailleurs que le rééquilibrage du Congrès et l'augmentation des compétences des provinces ont fait partie de la négociation. Il espère enfin que maintenant qu'il y a un accord, l'État va apporter son aide à la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie et notamment à la reprise de la filière nickel.
Une interview de Victor Tutugoro qui sera rediffusée, je vous le rappelle, ce soir. Ce sera juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible évidemment en podcast audio et vidéo sur notre site internet le www.rrb.nc. Dans l'actualité politique encore, à l'Union calédonienne qui tenait, vous le savez, hier à Vaud, un comité directeur, il s'agissait de faire le bilan de l'ensemble des séquences qui se sont déroulées ces dernières semaines, depuis l'ouverture du sommet à l'Élysée jusqu'aux discussions qui ont abouti au projet d'accord, sans oublier la séquence économique. Et pour Emmanuel Tchibaou, le président de l'Union calédonienne, il s'agit bien d'un projet d'accord.
Oui, ça pose beaucoup de questions. Nous, on a bien réaffirmé que c'était un projet d'accord. C'est ce que nous a dit le ministre le soir. Et qu'il y avait nécessité de le faire valider par nos mandants. Et en deuxième partie, de le faire évaluer par les experts constitutionnalistes, juristes, afin d'évaluer la cohérence politique et constitutionnelle de ce qui est porté. Mais le débat dans le comité directeur, c'est d'abord d'évaluer le volet politique qui est rattaché aux éléments qui sont posés à l'intérieur de ce projet d'accord.
Et selon le président de l'Union calédonienne, le flou constitutionnel de l'État sui generis autorise toutes les interprétations et les délégués ont posé de nombreuses questions hier à Vaud.
Beaucoup de questions sur l'ambiguïté des termes, sur la disparition de la notion d'identité kanak, des éléments qui étaient prééminents dans l'accord de Nouméa. Questions aussi sur les modalités d'exercice du droit à l'autodétermination qui se retrouvent aujourd'hui plus sur le plan du droit international, mais rattachées aux affaires politiques locales, puisque c'est une majorité qualifiée plus au Congrès qui déterminera de questionner la rétrocession d'une compétence régalienne. Et même en ayant cette majorité qualifiée, il faut aussi avoir l'aval de l'État. Et puis après, en dernier échelon, la sanction par le vote aux Calédoniens. Donc c'est le flou constitutionnel de l'État sui generis, il permet toutes les interprétations et c'est ce qu'on interroge dans les structures de base. Et puis ça va faire l'objet des discussions ici au sein du comité directeur. Et puis après, c'est ce qui nous permettra d'avancer aussi à la convention du FLNKS pour poser la réflexion et les analyses autant que la stratégie du mouvement sur la poursuite de la séquence de discussion.
Le comité directeur de l'Union calédonienne qui s'est achevé hier un peu avant minuit, rien n'a encore filtré des décisions qui ont été prises. L'Union calédonienne qui pourrait s'exprimer par voie de communiqué dans les prochaines heures. Plus que quelques heures pour profiter du salon Saveurs et Traditions. C'est à la Maison des Artisans, à Nouméa évidemment. L'événement connaît un beau succès depuis jeudi, Mickaël.
C'est le cas de le dire, il y en a pour tous les goûts. Produits d'ici et recettes d'ailleurs. Le public est encore nombreux ce dimanche sur place pour le plus grand plaisir des exposants qui ont mis les petits plats dans les grands.
Je suis Véronique, je travaille à l'épicerie fine Nouméa Gourmet. Les produits phares, ce sont les foie gras maison. La boutique s'est beaucoup diversifiée puisque l'on propose également une gamme de fromages dont... Monsieur Rodolphe Lemenier, meilleur ouvrier de France. Des produits de la mer, comme les œufs de truite, les œufs de saumon. Ça se passe très très bien. Disons, à l'ouverture, nous avons déjà beaucoup de monde. On a bien travaillé jusque-là et les gens sont contents. Parce qu'il y a un échange et les gens ont besoin de ça. Surtout les Calédoniens aujourd'hui, ils ont besoin de se rencontrer, de pouvoir échanger. Et ça, c'est formidable.
Moi, je suis Raïssa de Rice Cook. Et aujourd'hui, j'ai fait le yassa à l'orange avec du riz au curcuma. C'est une tuerie. Parce que le yassa, c'est une recette qui est à base que d'oignons, avec du poulet bien mariné, et on le cuit au barbecue, et après on le met dans l'oignon, et c'est super bon. C'est sénégalais. Mais c'est bizarre, aujourd'hui on me demande que du couscous. Le couscous, je l'ai fait vendredi, au final c'était une tuerie, à 11h30 on n'avait plus rien. Mais on me demande que du couscous aujourd'hui. On va y penser pour la prochaine fois. Moi à la base, j'ai un food truck où je fais que des wraps avec différentes saveurs, mais ça me fait plaisir d'être sur ce salon-là pour faire découvrir des plats de mon continent.
Quentin de la charcuterie Le Picard. Alors aujourd'hui, on a des tripes à la motte de Caen qui est cuisinée que au cidre. On a aussi des marais de canard fumés au piment d'Espelette, au poivre noir concassé et aux herbes de Provence. Fumage au niaoli. On a aussi du boudin basque, c'est la spécialité de la maison. On a aussi de la mousse de foie de volaille au porto, des rillettes de canard, rillettes de cerf, rillettes de porc. Très content, oui. On a fait un bon salon.
Je suis Food Savon. Nous avons fait du poulet boucané que nous vendons que la petite barquette de poulet boucané. Vous avez aussi un rougaille de saucisse. Nous avons beaucoup de choses. Il faut passer sur le stand et puis vous allez voir, vous allez vous régaler. On a déjà vachement vendu là, ouais. Et pourtant, j'en ai fait. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à... Hier, c'était beaucoup plus calme. Alors là, aujourd'hui, très très contente. Ça a été super. Les gens sont contents de venir profiter des bonnes choses que nous faisons et ça, voilà, ça fait plaisir.
Et bon appétit, bien sûr. Le Salon Saveur et Tradition qui continue jusqu'à 14h30 cet après-midi.
Et dans un tout autre domaine, Mickaël, ce week-end, les professionnels du mariage sont réunis à l'Art Factory au centre-ville de Nouméa.
Oui, une opération qui réunit donc de nombreux professionnels de ce secteur avec des promotions, des informations, des idées tendances pour un projet de mariage, mais aussi des produits attractifs comme par exemple l'opération Wedding Bazaar. Comprenez des linges de mariage à petit prix. Aurélie Pierre-Abijard de l'agence Éphémère NC.
Sur notre stand, on propose le Wedding Bazaar. Parce que l'amour, ça se recycle aussi. C'est notre petit slogan qu'on aime bien. Donc en fait, qu'est-ce qu'on propose? C'est quoi le concept? Donc on a fait un appel au dépôt vendredi où beaucoup de femmes sont venues déposer des robes de mariée, des costumes, les habits de leurs enfants, etc. Des accessoires, des chaussures, des bagues. À l'issue de cette collecte de dépôt, en fait, on a ouvert le Wedding Bazaar sur tout le salon où on propose des robes de mariée. Donc au lieu de les payer 300 000 francs, elles sont à 50 000 francs. Et on est aussi en partenariat avec la ressourcerie qui nous a aussi apporté des belles pièces. Donc on a plein de petites choses. On a sélectionné soigneusement des belles robes de mariée, des choses vraiment à la mode. On a de la robe sirène, de la robe princesse, des couronnes de diadèmes, on a tout à petit prix. Et donc en cette période, c'est vraiment très important parce que là, il y a un monsieur qui est parti avec un costume 3 pièces à 25 000 francs, tout neuf, bleu marine avec la petite écharpe. Enfin, ils sont ravis les gens. Et on a beaucoup de choses aussi pour les enfants, donc des petites robes de demoiselles d'honneur, des petits gilets en lin très jolis, petits pantalons accordés, enfin voilà. On a vraiment sélectionné des belles pièces.
Et beaucoup d'autres choses à découvrir encore au salon du mariage qui se poursuit jusqu'à 17h à l'Art Factory de Nouméa.
Il est midi 14 sur Radio Rythme Bleu, on va marquer une première pause dans ce journal et suivre l'actualité en métropole et dans le monde.
Du mardi au vendredi à 6h25 et 11h20 et le samedi à 7h45, écoutez l'édito d'Europe 1 avec le village automobile PK4 à Nouméa. Le village automobile, c'est un lieu unique qui regroupe un parking d'occasion, un magasin de pièces de rechange d'origine, un atelier de réparation normes constructeurs et aussi 11 grandes marques de véhicules neufs avec des offres exceptionnelles.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Il est midi 14, tout de suite la suite de votre info week-end avec Lionel Sabour.
Et l'actualité en métropole et dans le monde, l'engagement d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État de Palestine au mois de septembre continue de faire réagir et continue de poser un certain nombre de questions, notamment sur la structuration de cet État palestinien. Au cœur de ces structurations, il y a les élections qui sont prévues l'an prochain dans les territoires palestiniens. C'est en tout cas ce que pense l'historien, chercheur et ancien directeur du Centre de recherche français à Jérusalem, Vincent Lemire.
La question des élections, elle est centrale. Il y a un processus qui va être mis en place au niveau de l'Union européenne et des observateurs internationaux pour en fait utiliser les smartphones. Et donc, un petit peu comme en Ukraine, si vous voulez, on peut aujourd'hui organiser des processus électoraux tout à fait fiables, tout à fait sécurisés, qui en fait seront sur la totalité du territoire palestinien. Alors après, vous posez la question du Hamas. Vous savez qu'il y a depuis plusieurs mois une interrogation au niveau du Hamas et au niveau de l'OLP pour savoir si un Hamas débarrassé de sa branche terroriste pourrait rejoindre l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui, comme vous savez, est une fédération. Ça veut dire que cette branche politique, elle signerait la charte de l'OLP. Et donc, elle renoncerait au terrorisme. Et donc, par définition, elle reconnaîtrait Israël dans ses frontières de 67.
Vincent Lemire, ancien directeur du Centre de recherche français à Jérusalem dans Europa Weekend ce matin. J'ajoute que 48 heures après cet engagement pris par le président de la République de reconnaître la Palestine, Paris, Londres et Berlin ont exhorté Israël à cesser immédiatement la catastrophe humanitaire en cours à Gaza. Appel en partie entendu par l'armée israélienne qui a annoncé ce matin que les largages d'aide humanitaire allaient reprendre. Tzahal qui ajoute qu'elle va mettre en place des couloirs humanitaires pour assurer le passage sécurisé de convois de nourriture et de médicaments des Nations Unies. À l'étranger toujours, les combats de ces derniers jours entre le Cambodge et la Thaïlande ont fait au moins 33 morts. C'est en tout cas ce qu'indique un dernier bilan officiel. Violence sur fond de différents frontaliers entre les deux pays. C'est dans ce contexte que Donald Trump a annoncé ce matin que la Thaïlande et le Cambodge ont accepté de se rencontrer en vue d'un cessez-le-feu. Donald Trump, inflexible dans les négociations sur les droits de douane entre l'Europe et les États-Unis, à tel point que la Commission européenne serait prête à accepter 15% de surtaxe douanière contre 30% initialement prévu, à condition cependant d'obtenir des exemptions sur quelques secteurs stratégiques. En tout cas, quelle que soit la véritable issue des négociations qui vont s'engager entre les États-Unis et l'Europe, les entreprises françaises qui exportent vers les États-Unis ont beaucoup à perdre. C'est ce que révèle une récente étude réalisée par le service des douanes. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
Il y en a près de 15 000, dont des géants comme Airbus ou LVMH. 2 000 d'entre elles sont exposées aux droits de douane à hauteur d'au moins 10% de leur chiffre d'affaires. Certains secteurs sont durement frappés. La filière du cuir, par exemple, qui réalise près de 60% de ses marges aux États-Unis. Elle enregistre 900 millions d'euros de bénéfices annuels sur le marché américain et des droits de douane de 10% représentent une perte de 100 millions d'euros par an, 300 millions d'euros avec 30% de surtaxe. Alors certes, la France est moins exposée que l'Allemagne, dont près de 4% du PIB dépend du marché américain, mais elle est une victime collatérale de l'obsession trumpiste pour le déficit commercial, explique l'économiste Thomas Gerbin.
Le paradoxe, c'est que nous sommes déficitaires vis-à-vis des États-Unis, alors que le reste de l'Europe est excédentaire. Entre guillemets, on paye pour les excédents européens sur lesquels Donald Trump veut taper.
En 2024, la France a exporté 48 milliards d'euros de biens aux États-Unis, environ 1,5% du PIB.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. L'actualité en métropole marquée par ce drame la nuit dernière en Auvergne. Trois spectateurs ont perdu la vie lors de la sortie de route d'une voiture de course lors du rallye de la Fourme dans le Puy-de-Dôme. Noémie Loisel pour Europe 1.
Vers 11h, une jeune femme pilote de 22 ans et sa copilote de 51 ans à bord de leur Peugeot 208 sortent de la route et percutent trois spectateurs. Deux frères âgés de 60 et 70 ans décèdent sur place. Un père de famille de 44 ans, grièvement blessé et héliporté à l'hôpital de Clermont-Ferrand, succombe à ses blessures. Les deux pilotes sont légèrement blessés. Sur cette ligne droite où la voiture de course a perdu le contrôle, il reste un morceau de rubalise rouge et un panneau qui indique que l'accès est strictement interdit. Les premiers éléments de l'enquête laissent à penser que les victimes se trouvaient dans cette zone interdite au public. Laure Moisset est la procureure adjointe au parquet de Clermont-Ferrand.
Il semblerait qu'il n'était pas dans une zone autorisée. Il y a effectivement une organisation qui prévoit prévoit des zones rouges qui sont dangereuses et des zones vertes qui sont autorisées. Donc il appartient bien sûr aux spectateurs d'assister à cette course en respectant cette réglementation.
Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte. Elle devra déterminer l'endroit exact où se trouvaient les spectateurs au moment du drame. Dans la commune de Saint-Just, située à proximité de l'accident, une cellule psychologique a été mise en place dans la salle des fêtes. Ici, c'est le choc. L'an dernier, déjà lors de ce même rallye, un commissaire aux courses percuté par une voiture alors qu'il intervenait après un accident avait perdu la vie.
Noémie Doiset, la correspondante d'Europe 1 en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans l'actualité également, un chauffard toujours en fuite à Colomiers, près de Toulouse. Hier, il a provoqué un grave accident de la circulation dans lequel une femme et ses trois enfants ont été grièvement blessés. Quelques minutes avant l'accident, l'homme avait refusé d'obtempérer lors d'un contrôle de gendarmerie. Et puis le sud de la France, de nouveau en proie à de violents incendies. Une nouvelle fois, c'est le département de l'Aude qui est touché par les flammes. En l'espace de quelques heures, le feu a déjà parcouru 600 hectares de végétation. Des habitations sont menacées. Le colonel Christophe Manier, le commandant du 10 de l'Aube.
On est sur un feu qui à cette heure n'est toujours pas fixé, donc un peu virulent, aux abords d'une zone d'activité à moins de 100 mètres aussi des habitations. Donc là, on fait effort à protéger les populations. On a évacué deux campings. On a aussi quelques habitations à proximité de ces mêmes campings qui ont été également évacuées et accueillies dans les gymnases. Mais on est dans des zones boisées avec un vent important et un plateau. On est sur des zones particulièrement ventées.
Et j'ajoute que plus de 650 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes. Ils sont appuyés par plusieurs canadairs et hélicoptères bombardier d'eau. Les services de Météo France ont placé plusieurs départements du sud de la France en vigilance rouge, feu de forêt. Il est midi et 22 minutes, on marque une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive.
La ville de Nouméa lance la troisième édition de son concours d'éloquence. La parole est à toi.
Alors si tu as entre 15 et 30 ans et que tu veux t'exprimer, c'est le moment. Un appel à candidature est ouvert jusqu'au 31 août.
Théâtre, slam, parole libre, conte, poésie. Choisis la forme qui te ressemble et viens prendre la parole sur le sujet de ton choix. Des présélections suivront l'appel à candidature fin septembre pour une finale vibrante et authentique le 24 octobre dans la salle d'honneur de l'Hôtel de Ville.
Toutes les infos et le formulaire d'inscription sont disponibles sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Vous êtes sur RRB, plus la peine de zapper.
La fin de votre journal, le sport avec Lionel Sabour.
Oui, le sport est la dernière ligne droite pour le Tour de France. C'est demain la fin de la grande boucle.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Et Tadej Pogacar roule vers son quatrième sacre en carrière sur la plus prestigieuse des épreuves de cyclisme sur route, Michael Juneski.
Au classement général, à la veille de l'arrivée aux Champs-Élysées, le Slovène est toujours en jaune avec 4 minutes 24 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. L'Allemand Florian Lipovic complète le podium. Le meilleur Français, c'est Kevin Vauclin. Il est en 7e position, tandis qu'un autre tricolore, Jorgan Jega, a réussi à intégrer le top 10.
Je suis allé la chercher, c'est vrai que... Voilà, je remercie toutes les personnes qui croient en moi, toutes les personnes qui m'ont envoyé un message sur le bord des routes, qui me disent « Allez, top 10, fais-le ». J'avais à cœur de donner ça à l'équipe et à toutes les personnes qui me supportent. Vraiment, en fait, souvent, comme on dit, je suis un peu en dehors des radars, je suis quelqu'un de discret. Mais c'est parce que voilà, j'ai pas la victoire, je suis toujours un peu en dessous des résultats. Et forcément, quand il y a le top 10 du tour, c'est que les 10 premiers, c'est pas le 11e. Donc, être dans les 10, c'est toujours mieux.
Jordan Jega qui a réussi une belle performance sur la 20e étape remportée par l'Australien Caden Groves en solitaire à l'issue d'un parcours de 184 km. L'ultime étape de la grande boucle partira ce soir de Mantes-la-Ville à 1h25 du matin pour nous, pour rallier les Champs-Élysées.
Et les petites reines ont également pris la route. Chez les féminines, le Tour de France est lancé.
Avec une première étape en Bretagne pour les dames qui a été remportée par la néerlandaise Marianne Vos devant la mauricienne Kimberly Pienaar-Lecourte et la française Pauline Ferrand-Prévot. Ce soir, le peloton des féminines partira sur un parcours de 110 km entre Brest et Quimper.
Un petit mot d'escrime également, Mickaël, avec le sacre des épéistes françaises aux Mondiaux.
Une victoire sur la Russie en finale pour remporter l'or. Alexandra Louis-Marie, Lorraine Rembi, Héloïse Varussel et Marie-Florence Candassamy ont donc gagné le titre. C'est le premier sacre mondial pour les Françaises dans cette discipline depuis 17 ans.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
La Formule 1, le Grand Prix de Belgique ce week-end avant la course principale ce soir. Max Verstappen a remporté l'épreuve sprint devant les McLaren.
Une petite surprise donc, puisque le Néerlandais s'est imposé au volant de sa Red Bull devant l'actuel leader du championnat du monde, Oscar Piastri, et le deuxième au classement mondial, Lando Norris. Charles Leclerc sur Ferrari a terminé en 4e position juste devant le tricolore Esteban Ocon. Charles Leclerc, heureux d'améliorer ses performances.
L'évolution a fonctionné, malheureusement il y a McLaren qui a eux aussi amené des évolutions, et donc du coup ça fait qu'on se rapproche pas énormément, mais bon, l'évolution a marché de notre côté, donc ça c'est positif, mais il en faut d'autres pour essayer de fermer le gap avec McLaren, parce que bien sûr ils continuent à bosser, donc c'est frustrant, mais c'est comme ça.
Et lors des qualifications, les McLaren ont remis les pendules à l'heure. Lando Norris, meilleur temps devant son coéquipier Oscar Piastri. Charles Leclerc est parvenu cette fois à terminer avec le 3e chrono de référence devant Max Verstappen. Côté français, Isaac Hadjar s'élancera de la 8e position, Esteban Ocon de la 11e place et Pierre Gasly de la 13e place. Grand Prix de Belgique à suivre ce soir dès minuit pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Venons-en au sport en Calédonie avec ce dimanche le grand retour des courses hippiques à Nouméa.
La première épreuve de la saison sur l'hippodrome Henri Millard. Premier rendez-vous Nouméen d'ailleurs depuis l'interruption des courses. Et il y aura une épreuve très attendue, la Clark Warm-Up. C'est celle qu'on a baptisée la répétition générale en vue de la Coupe Clark. Plus prestigieux trophée sur le territoire. Ce sera donc un jour. Les meilleurs chevaux du moment seront Gaîté de pied ferme, The Star, Harry Potter, Paris Pepper qui font notamment figure de favoris. Pour les turfistes et les passionnés, rendez-vous donné donc pour cette Clark Warm-Up à 15h20 cet après-midi. En tout, 8 courses sont au programme depuis 11h. À retrouver également en clôture le Grand Prix Édouard Pentecôte à 16h sur l'hippodrome Henri Millard.
Et puis on passe en revue, Mickaël, pour terminer le reste de l'actualité sportive sur le territoire.
Du football avec la dernière journée des phases de groupe de la Super League. Hier, victoire de l'AS Lossy sur le CA Saint-Louis 4-1. L'AS Gaïcha s'est imposé sur l'AS Mondor 5-2. À suivre aujourd'hui les matchs entre le SC Negeo et l'AS Cougnier. Et à 13h, le choc entre Horizon Pato et Yengen Sport. Le rallye de Nessadio hier à Bouraï, l'équipage Hendrik Maui, Frank Kachawan sur Mitsubishi Evolution 8 qui a terminé en tête devant l'équipage Sébastien Guépin et Cyril Tuffer, suivi de Cédric Akinaga et Michael Frissoni. Et puis le premier trail des facteurs se disputait dans le Grand Sud au départ du vieux village de Progny, événement mis en place par Challenge Organisation, et la victoire du trio Michaud Garcin Deschamps sur le Grand Raid de 14 km.
Il est midi et 28 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Bel après-midi, à tout à l'heure.